Chapitre 6 Les massacreurs. Coconas n'avait pas fui, il avait fait retraite. La hurière n'avait pas fui, il s'était précipité. L'un avait disparu à la manière d'un tigre, l'autre à celle d'un loup. Il en résulta que la hurière se trouvait déjà sur la place Saint-Germain d'Auxerrois, que Coconas ne faisait encore que sortir du Louvre. La hurière, se voyant seule avec son arquebuse au milieu des passants qui couraient, des balles qui sifflaient et des cadavres qui tombaient des fenêtres, les uns entiers, les autres par morceaux, commença à avoir peur et à chercher prudemment à regagner son hôtellerie. Mais comme il débouchait de la rue de l'Arbre Sec par la rue d'Aveyron, il tomba sur une troupe de Suisses et de chevaux légers. C'était celle que commandait Maurevel. « Eh bien, s'écria celui qui s'était baptisé lui-même du nom du tueur de roi, vous avez déjà fini? Vous rentrez, mon hôte, et que diable avez-vous fait de notre gentilhomme piémontais? Il ne lui est pas arrivé malheur, ce serait dommage, car il allait bien. »« Non pas que je pense, répondit la hurière, j'espère qu'il va nous rejoindre. »« D'où venez-vous ? » ?»« Du Louvre, où je dois dire qu'on nous a reçus assez rudement. »« Et qui cela ? » ?»« Monsieur le duc d'Alençon, est-ce qu'il n'en est pas, lui ?» Monsieur le duc d'Alençon n'est de rien que de ce qu'il touche personnellement. Proposez-lui de traiter ses deux frères aînés de Huguenots, et il en sera. Pourvu, toutefois, que la besogne se fasse sans le compromettre. Mais n'allez-vous point avec ces braves gens, maître la hurière? Et où vont-ils? Oh, mon Dieu, rue Montorgueil, il y a là un ministre Huguenot de ma connaissance. Il y a une femme et 6 enfants. Ce hérétique engendre énormément. Ce sera curieux. « Et vous, où allez-vous ? Oh, moi, je vais à une affaire particulière. »« Dis donc, n'y allez pas sans moi, » dit une voix qui fit tressaillir Maurevel. « Vous connaissez les bons endroits, et je veux en être. »« Ah, c'est notre piémontais, » dit Maurevel. « C'est monsieur Coconas, » dit la hurière. « Je croyais que vous me suiviez. »« Eh, peste, vous détalez trop vite pour cela. » Et puis, je suis un peu détourné de la ligne droite pour aller jeter à la rivière un affreux enfant qui criait « À bas les papistes, vive l'amiral !» Et malheureusement, je crois que le drôle savait nager. Ces misérables parpaillots, si on veut les noyer, il faudra les jeter à l'eau comme des chats avant qu'ils y voient clair. « Ah ça, vous dites que vous venez du Louvre ? Votre Huguenot s'y était donc réfugié ?» demanda Maurevel. « Oh, mon Dieu, oui !» Je lui ai envoyé un coup de pistolet au moment où il ramassait son épée dans la cour de l'amiral, mais je ne sais comment cela s'est fait, je l'ai manqué. « Oh, moi, dit Coconas, je ne l'ai pas manqué, je lui ai donné de mon épée dans le dos, que la lame en était humide à 5 pouces de la pointe. D'ailleurs, je l'ai vu tomber dans les bras de Marguerite, jolie femme pardi. Cependant, j'avoue que je ne serais pas fâché d'être tout à fait sûr qu'il est mort. Ce gaillard-là m'avait l'air d'être un caractère bien rancunier, et il serait capable de m'en vouloir toute sa vie. Mais ne me disiez-vous pas que vous alliez quelque part? Vous tenez donc à venir avec moi? Je ne tiens pas à rester en place, mordi. Je n'en ai pas encore tué que 3 ou 4, et quand je me refroidis, mon épaule me fait mal. En route, en route! « Ah, capitaine, dit Maurevel au chef de la troupe, donnez-moi 3 hommes et allez expédier votre ministre avec le reste. » 3 Suisses se détachèrent et vinrent se joindre à Maurevel. Les 2 troupes, cependant, marchèrent côte à côte jusqu'à la hauteur de la rue Tirschap. Là, les chevaux légers des Suisses prirent la rue de la Tonnellerie, tandis que Maurevel, Coconas, la Hurière et ses 3 hommes suivaient la rue de la Ferronnerie, prenaient la rue Troussevache et gagnaient la rue Saint-Avoy. « Mais où diable nous conduisez-vous ? » dit Coconas, que cette longue marche sans résultat a commencé à ennuyer. « Je vous conduis à une expédition brillante et utile à la fois. Après l'amiral, après Téligny, après les princes Huguenots, je ne pouvais rien vous offrir de mieux. Prenez donc patience, c'est rue du Chaume que nous avons à faire, et dans un instant, nous allons y être. »« Dites-moi, commanda Coconas, la rue du Chaume n'est-elle pas proche du temple ?»« Eh oui, pourquoi ?» C'est là qu'il y a un vieux créancier de notre famille, un certain Lambert Mercandon, auquel mon père m'a recommandé de rendre 100 nobles à la rose que j'ai là à cet effet dans ma poche. « Eh bien, dit Maurevel, voilà une belle occasion de vous acquitter envers lui. Comment cela ? Eh, c'est aujourd'hui le jour où l'on règle ces vieux comptes. Votre Mercandon est-il huguenot ? « Oh, fit Coconas, je comprends, il doit l'être. Chut, nous sommes arrivés. Quel est ce grand hôtel avec son pavillon sur la rue ? L'hôtel de Guise. Ah, En vérité, dit Coconas, je ne pouvais pas manquer de venir ici, puisque j'arrive à Paris sous le patronage du grand Henri. Mais, mordi, tout est bien tranquille dans ce quartier-ci, mon cher. C'est tout au plus si l'on entend le bruit des arquebusades. On se croirait en province. Tout le monde dort, ou que le diable m'emporte. Un peu au-delà de l'hôtel de Guise, c'est-à-dire au coin de la rue du Petit Chantier et de celle des Quatre Fils, Maurevel s'arrêta. « Voici le logis que nous cherchons, dit-il. « Dites, c'est lui que vous cherchez, c'est-à-dire, fit la hurière. Puisque vous m'accompagnez, nous le cherchons. Mais comment cette maison me semble dormir d'un si bon sommeil ?»« Justement, vous, la hurière, vous allez utiliser l'honnête figure que le ciel vous a donnée par erreur en frappant à cette maison. Passez votre arquebuse à monsieur de Coconas, il y a une heure que je vois qu'il la lorgne. Si vous êtes introduit, vous demanderez à parler à monsieur de Mouy. » « Ah, fit Coconas, je comprends, vous avez aussi un créancier dans le quartier du Temple, à ce qu'il paraît. »« Justement, continua Maurevel, vous montrez donc en jouant le huguenot, vous avertirez de Mouy de tout ce qui se passe, il est brave, il descendra. »« Et une fois descendu, demanda la hurière, une fois descendu, je le prierai d'aligner son épée sur la mienne. » « Ah, sur mon âme, c'est un brave gentilhomme, dit Coconas, et je compte faire exactement la même chose avec Lambert Mercadon. Et s'il est trop vieux pour accepter, ce sera avec quelqu'un de ses fils ou de ses neveux. » La hurière alla sans répliquer frapper à la porte. Ses coups retentissant dans le silence de la nuit firent ouvrir les portes de l'hôtel de Guise et sortir quelques têtes par les ouvertures. On vit alors que l'hôtel était calme à la manière des citadelles, c'est-à-dire qu'il était plein de soldats. Ses têtes rentraient presque aussitôt, devinant sans doute de quoi il était question. « Il loge donc là, votre monsieur de Mouy ?» dit Coconas, montrant la maison où la hurière venait de frapper. « Non, c'est le logis de sa maîtresse. Maudit, quelle galanterie vous lui faites, lui fournir l'occasion de tirer l'épée sous les yeux de sa belle !» « Alors nous serons les juges du camp. Cependant, j'aime assez à me battre moi-même, mon épaule me brûle. »« Et votre figure, demanda Maurevel, elle est aussi fort endommagée. » Coconas poussa une espèce de rugissement. « Ah, merci, dit-il, j'espère qu'il est mort, ou sans ça, je retournerai au Louvre pour l'achever. » La hurière frappait toujours. Bientôt, une fenêtre du premier étage s'ouvrit, et un homme parut sur le balcon en bonnet de nuit, en caleçon et sans armes. « Qui va là ?» cria cet homme. Maurevel fit un signe à ses Suisses qui se rangèrent sous une encoignure, tandis que Coconas s'aplatissait de lui-même contre la muraille. « Ah, monsieur de Mouy, dit l'aubergiste de sa voix câline, est-ce vous ?»« Oui, c'est moi, après ?»« C'est bien lui, murmura Maurevel en frémissant de joie. « Et, monsieur, continua la hurière, ne savez-vous point ce qui se passe? On égorge monsieur l'amiral, on tue les religionnaires, nos frères, venez vite à leur aide, venez !»« Ah !» s'écria de Mouy, « je me doutais bien qu'il se tramait quelque chose pour cette nuit. Ah, je n'aurais pas dû quitter mes braves camarades. Me voici, mon ami, me voici, attendez-moi !» Et, sans refermer la fenêtre, par laquelle sortirent quelques cris de femmes effrayées, quelques supplications tendres, monsieur de Mouy chercha son pourpoint, son manteau et ses armes. « il descend, murmura Maurevel, pâle de joie. « Attention, vous autres, glissa-t-il dans l'oreille des Suisses. Puis, retirant l'arquebuse des mains de Coconas et soufflant sur la mèche pour s'assurer qu'elle était toujours bien allumée, « Tiens, la hurière, ajouta-t-il à l'aubergiste, qui avait fait retraite vers le gros de la troupe, « reprends ton arquebuse. »« Mordi !» s'écria Coconas. « Voilà la lune qui sort d'un nuage pour être le témoin de cette belle rencontre. Je donnerais beaucoup pour que Lambert Mercadon fût ici et servi de second à monsieur de Mouy. »« Attendez, attendez, » dit Maurevel, « monsieur de Mouy vaut 10 hommes à lui seul, et nous en aurons peut-être assez à nous 6 pour nous débarrasser de lui. » « Avancez, vous autres, » continua Maurevel, en faisant signe aux Suisses de se glisser contre la porte afin de le frapper quand il sortira. « Oh !» dit Coconas en regardant ses préparatifs, « il paraît que cela ne se passe à la pointe tout à fait comme je m'y attendais. » Déjà, on entendait le bruit de la barque tirée de Mouy. Les Suisses étaient sortis de leur cachette pour prendre leur place auprès de la porte. Maurevel et la hurière s'avançaient sur la pointe des pieds, tandis que, par un reste de gentilhommerie, Coconas restait à sa place, lorsque la jeune femme à laquelle on ne pensait plus parut à son tour au balcon et poussa un cri terrible en apercevant les Suisses, Maurevel et la hurière. De Mouy, qui avait déjà entrouvert la porte, s'arrêta. Remonte, remonte! Cria la jeune femme. Je vois reluire des épées, je vois briller la mèche d'une arquebuse. C'est un guet-apens. Oh! Reprit en grondant la voix du jeune homme. Voyons un petit peu ce que veut dire tout ceci. Et il ferma la porte, remit la barre, repoussa le verrou, remonta. L'ordre de bataille de Maurevel fut changé dès qu'il vit que de Mouy ne sortirait point. Les Suisses allèrent se poster de l'autre côté de la rue, et la Hurière, son arquebuse au poing, attendit que l'ennemi reparût à la fenêtre. Il n'attendit pas longtemps. De Mouy s'avança, précédé de deux pistolets d'une longueur si respectable que la Hurière, qui le couchait déjà en joue, réfléchit soudain que les balles du Huguenot n'avaient pas plus de chemin à faire pour arriver dans la rue que sa balle à lui n'en avait pour arriver au balcon. De Mouy jeta un coup d'œil autour de lui et s'avança en s'effaçant comme un homme qui se prépare à un duel, mais voyant que rien ne venait, « Ah, ça, dit-il, il paraît, monsieur l'honneur d'avis, que vous avez oublié votre arquebuse à ma porte. Me voilà, que me voulez-vous ?»« Ah, se dit Coconas, voici en effet un brave. »« Eh bien, continua de Mouy, ami ou ennemi, qui que vous soyez, ne voyez-vous pas que j'attends ?» La Hurière garda le silence, Maurevel ne répondit point, et les trois Suisses demeurèrent quoi. Coconas attendit un instant, puis, voyant que personne ne soutenait la conversation entamée par la Hurière et continuée par de Mouy, il quitta son poste, s'avança jusqu'au milieu de la rue et mettant le chapeau à la main. « Messieurs, lui dit-il, nous ne sommes pas ici pour un assassinat, comme vous pourriez le croire, mais pour un duel. J'accompagne un de vos ennemis qui voudrait avoir affaire à vous pour terminer galamment une vieille discussion. Eh, mordi, avancez donc, monsieur de Maurevel, au lieu de tourner le dos. Monsieur accepte. » Maurevel, s'écria de Mouy, Maurevel, l'assassin de mon père, Maurevel, le tueur de roi. Ah, pardieu, oui, j'accepte. Et ajustant Maurevel, qui allait frapper à l'hôtel de Guise pour y chercher du renfort, il perça son chapeau d'une balle. Au bruit de l'explosion, au cri de Maurevel, les gardes qui avaient ramené la duchesse de Nevers sortirent, accompagnés de trois ou quatre gentilshommes suivis de leurs pages, et s'avancèrent vers la maison de la maîtresse du jeune de Mouy. Un second coup de pistolet tiré au milieu de la troupe fit tomber mort le soldat qui se trouvait le plus proche de Maurevel. Après quoi, de Mouy, se trouvant sans armes, ou du moins avec des armes inutiles, puisque ses pistolets étaient déchargés et que ses adversaires étaient hors de portée de l'épée, s'abrita derrière la galerie du balcon. Cependant, çà et là, les fenêtres commençaient à s'ouvrir aux environs, et selon l'humeur pacifique ou belliqueuse de leurs habitants, se refermaient ou se hérissaient de mousquets et d'arquebuses. « À moi, mon brave Mercandon !» cria de Mouy en faisant signe à un homme déjà vieux qui, d'une fenêtre qui venait de s'ouvrir en face de l'hôtel de Guise, cherchait à savoir quelque chose dans cette confusion. « Vous appelez, sire de Mouy ?» cria le vieillard. « N'est-ce pas à vous qu'on en veut ?»« Non, c'est à moi, c'est à vous, c'est à tous les protestants, et tenez, en voilà la preuve !» En effet, en ce moment, de Mouy avait vu se diriger contre lui l'arquebuse de la Hurière. Le coup partit, mais le jeune homme eut le temps de se baisser et la balle alla briser une vitre au-dessus de sa tête. « Mercandon !» s'écria Coconas, qui, à la vue de cette bagarre, tressaillait de plaisir et avait oublié son créancier, mais à qui cette apostrophe de Mouy le rappelait. « Mercandon, rue du Chaume, c'est bien ça ? Ah, il demeure là, c'est bon, nous allons avoir affaire chacun à notre homme. » Et tandis que les gens de l'hôtel de Guise enfonçaient les portes de la maison où était de Mouy, tandis que Maurevel, un flambeau à la main, essayait d'incendier la maison, tandis que les portes, une fois brisées, un combat terrible s'engageait contre un seul homme qui, à chaque coup de rapière, abattait son ennemi, Coconas essayait, à l'aide d'un pavé, d'enfoncer la porte de Mercandon qui, sans s'inquiéter de cet effort solitaire, arquebusait de son mieux à sa fenêtre. Alors tout ce quartier, désert et obscur, se trouva illuminé comme en plein jour, peuplé comme l'intérieur d'une fourmilière. Car de l'hôtel de Montmorency, six ou huit gentilshommes huguenots, avec leurs serviteurs et leurs amis, venaient de faire une charge furieuse et commençaient, soutenus par le feu des fenêtres, à faire reculer les gens de Maurevel et ceux de l'hôtel de Guise, qu'ils finirent par acculer à l'hôtel d'où ils étaient sortis. Coconas, qui n'avait point encore achevé d'enfoncer la porte de Mercanton, quoiqu'il s'escrimât de tout son cœur, fut pris dans ce brusque refoulement. S'adossant alors à la muraille et mettant l'épée à la main, il commença non seulement à se défendre, mais encore à attaquer, avec des cris si terribles qu'il dominait toute cette mêlée. Il ferrailla ainsi de droite et de gauche, frappant amis et ennemis, jusqu'à ce qu'un large vide se fût opéré autour de lui. À mesure que sa rapière trouait une poitrine et que le sang tiède éclaboussait ses mains et son visage, lui, l'œil dilaté, les narines ouvertes, les dents serrées, regagnait le terrain perdu et se rapprochait de la maison assiégée. De Mouy, après un combat terrible livré dans l'escalier et le vestibule, avait fini par sortir en véritable héros de sa maison brûlante. Au milieu de toute cette lutte, il n'avait pas cessé de crier « À moi, Maurevel, Maurevel, où es-tu ?» l'insultant avec les épithètes les plus injurieuses. Il apparut enfin dans la rue, soutenant d'un bras sa maîtresse, à moitié nue et presque évanouie, et tenant un poignard entre ses dents. Son épée, flamboyante par le mouvement de rotation qu'il lui imprimait, traçait des cercles blancs et rouges selon que la lune en argentait la lame ou qu'un flambeau en faisait reluire l'humidité sanglante. Maurevel avait fui. La Hurière, repoussée par de Mouy jusqu'à Coconas, qui ne le reconnaissait pas et le recevait à la pointe de son épée, demandait grâce des deux côtés. En ce moment, Mercandon l'aperçut, le reconnut à son écharpe blanche pour un massacreur. Le coup partit. La Hurière jeta un cri, étendit les bras, laissa échapper son arquebuse et, après avoir essayé de regagner la muraille pour se retenir à quelque chose, tomba, la face contre terre. De Mouy profita de cette circonstance, se jeta dans la rue du Paradis et disparut. La résistance des Huguenots avait été telle que les gens de l'hôtel de Guise, repoussés, étaient rentrés et avaient fermé les portes de l'hôtel dans la crainte d'être assiégés et pris chez eux. Coconas, ivre de sang et de bruit, arrivait à cette exaltation où, pour les gens du Midi surtout, le courage se change en folie, n'avait rien vu, rien entendu. Il remarqua seulement que ses oreilles tintaient moins fort, que ses mains et son visage se séchaient un peu, et abaissant la pointe de son épée, il ne vit plus près de lui qu'un homme couché, la face noyée dans un ruisseau rouge, et autour de lui que maison qui brûlait. Ce fut une bien courte trêve, car au moment où il allait s'approcher de cet homme qu'il croyait reconnaître pour la Hurière, la porte de la maison qu'il avait vainement essayé de briser à coups de pavé s'ouvrit, et le vieux Mercandon, suivi de son fils et de ses deux neveux, fondit sur le piémontais, occupé à reprendre haleine. « Le voilà, le voilà !» s'écrièrent-ils tout d'une voix. Coconas se trouvait au milieu de la rue, et craignant d'être entouré par ces quatre hommes qui l'attaquaient à la fois, il fit, avec la vigueur d'un de ces chamois qu'il avait si souvent poursuivi dans les montagnes, un bond en arrière et se trouva adossé à la muraille de l'hôtel de Guise. Une fois tranquillisé sur les surprises, il se remit en garde et redevint railleur. « Ah ah, père Mercandon, dit-il, vous ne me reconnaissez pas ?»« Oh, misérable !» s'écria le vieux Huguenot. « Je te reconnais bien au contraire. Tu m'en veux, à moi, l'ami, le compagnon de ton père, et son créancier, n'est-ce pas ?»« Oui, son créancier, puisque c'est toi qui le dis. » « Eh bien, justement, répondit Coconas, je viens régler nos comptes. » Et à ces paroles, il engagea l'épée avec celui des jeunes gens qui se trouvaient le plus proche de lui, et au premier dégagement, lui abattit le poignet avec sa rapière. Le malheureux se recula en hurlant. « Aidin !» dit Coconas. Au même instant, la fenêtre sous laquelle Coconas avait cherché un abri s'ouvrit en grinçant. Coconas fit un soubresaut, craignant une attaque de ce côté, mais au lieu d'un ennemi, ce fut une femme qui apparut. Au lieu de l'arme meurtrière qu'il s'apprêtait à combattre, ce fut un bouquet qui tomba à ses pieds. « Tiens, une femme !» dit-il. Il salua la dame de son épée et se baissa pour ramasser le bouquet. « Prenez garde, brave catholique, prenez garde !» s'écria la dame. Coconas se releva, mais pas si rapidement que le poignard du second neveu ne fendit son manteau et n'entama l'autre épaule. La dame jeta un cri perçant. Coconas la remercia et la rassura d'un même geste, s'élança sur le second neveu, qui rompit. Mais au second appel, son pied de derrière glissa dans le sang. Coconas s'élança sur lui avec la rapidité du chat-tigre et lui traversa la poitrine de son épée. « Bien, bien, brave cavalier !» s'écria la dame de l'hôtel de Guise. « Bien, je vous envoie du secours !» Ce n'est point la peine de vous déranger pour cela, madame, dit Coconas. Regardez plutôt jusqu'au bout si la chose vous intéresse. Vous allez voir comment le comte Hannibal de Coconas accommode les Huguenots. En ce moment, le fils du vieux Mercandon tira presque à bout portant un coup de pistolet à Coconas qui tomba sur un genou. La dame de la fenêtre poussa un cri, mais Coconas se releva. Il ne s'était agenouillé que pour éviter la balle qui alla trouer le mur à deux pieds de la belle spectatrice. Presque en même temps, de la fenêtre du logis de Mercandon partit un cri de rage, et une vieille femme, qui à sa croix et à son écharpe blanche reconnut Coconas pour un catholique, lui lança un pot de fleurs qu'il atteignit au-dessus du genou. « Bon, dit Coconas, l'une me jette des fleurs, l'autre des pots. Si ça continue, on va démolir les maisons. »« Merci, ma mère, merci !» cria le jeune homme. « Va, femme, va, dit le vieux Mercandon, mais prends garde à nous. »« Attendez, monsieur de Coconas, attendez, dit la jeune dame de l'hôtel de Guise, je vais faire tirer aux fenêtres. »« Ah, donc, c'est donc un enfer de femmes, dont les unes sont pour moi, les autres contre moi, dit Coconas, mordi, finissons-en. » La scène, en effet, était bien changée et tirait évidemment à son dénouement. En face de Coconas, blessé, il est vrai, mais dans toute la vigueur de ses 24 ans, mais habitué aux armes, mais irrité plutôt qu'affaibli par les 3 ou 4 égratignures qu'il avait reçues, il ne restait plus que Mercandon et son fils. Mercandon, vieillard de 60 à 70 ans, son fils, enfant de 16 à 18 ans. Ce dernier, pâle et frêle, avait jeté son pistolet déchargé et par conséquent devenu inutile et agitait en tremblant une épée de moitié moins longue que celle du piémontais. Le père, armé seulement d'un poignard et d'une arquebuse vide, appelait au secours. Une vieille femme, à la fenêtre en face, la mère du jeune homme, tenait à la main un morceau de marbre et s'apprêtait à le lancer. Enfin, Coconas, excité d'un côté par les menaces, de l'autre par les encouragements, fier de sa double victoire, enivré de poudre et de sang, éclairé par la réverbération d'une maison en flammes, exalté par l'idée qu'il combattait sous les yeux d'une femme dont la beauté lui avait semblé aussi supérieure que son rang, lui paraissait incontestable. Coconas, comme le dernier des Horaces, avait senti doubler ses forces, et voyant le jeune homme hésiter, il courut à lui et croisa sur sa petite épée sa terrible et sanglante rapière. 2 coups suffirent pour la lui faire sauter des mains. Alors Mercandon chercha à repousser Coconas pour que les projectiles lancés par la fenêtre l'atteignissent plus sûrement. Mais Coconas, au contraire, pour paralyser la double attaque du vieux Mercandon qui essayait de le percer de son poignard et de la mère du jeune homme qui tentait de lui briser la tête avec la pierre qu'elle s'apprêtait à lui lancer, saisit son adversaire à bras le corps, le présentant à tous comme un bouclier et l'étouffant dans son étreinte herculéenne. « à moi !» s'écria le jeune homme, « il me brise la poitrine, à moi !» et sa voix commença à se perdre dans un râle sourd et étranglé. Alors Mercandon cessa de menacer, il supplia. « Grâce, grâce, dit-il, monsieur de Coconas, grâce, c'est mon unique enfant. C'est mon fils, cria la mère, l'espoir de notre vieillesse, ne le tuez pas, monsieur, ne le tuez pas. »« Ah, vraiment ? » cria Coconas en éclatant de rire, « que je ne le tue pas. Et que voulait-il donc me faire avec son épée et son pistolet ?»« Monsieur, continua Mercandon en joignant les mains, j'ai chez moi l'obligation souscrite par votre père, je vous la rendrai, j'ai 10 000 écus d'or, je vous les donnerai, j'ai les pierreries de notre famille et elles seront à vous, mais ne le tuez pas, ne le tuez pas. » « Et moi, j'ai mon amour, dit à demi-voix la femme de l'hôtel de Guise, et je vous le promets. » Coconas réfléchit une seconde, et soudain, « Êtes-vous huguenot ? » demanda-t-il au jeune homme. « Je le suis, murmura l'enfant. « Eh, dans ce cas, il faut mourir, répondit Coconas, en fronçant les sourcils et en approchant de la poitrine de son adversaire la miséricorde acérée et tranchante. « Mourir !» s'écria le vieillard, « mon pauvre enfant, mourir !» Et un cri de mère retentit si douloureusement et si profond qu'il ébranla pour un moment la sauvage révolution du piémontais. « Oh, madame la duchesse !» s'écria le père en se tournant vers la femme de l'hôtel de Guise, « intercédez pour nous, et tous les matins et tous les soirs, votre nom sera dans nos prières. »« Alors qu'ils se convertissent !» dit la dame de l'hôtel de Guise. « Je suis protestant !» dit l'enfant. « Meurs donc, dit Coconas en levant sa dague, meurs donc, puisque tu ne veux pas de la vie que cette belle bouche t'offrait. » Mercandon et sa femme virent la lame terrible luire comme un éclair au-dessus de la tête de leur fils. « Mon fils, mon Olivier !» hurla la mère. « Abjure, abjure !»« Abjure, cher enfant !» cria Mercandon, se roulant aux pieds de Coconas. « Ne nous laisse pas seuls sur la terre !»« Abjurez tous ensemble !» dit Coconas. « Pour un credo, trois âmes et une vie !»« Je le veux bien !» dit le jeune homme. « Nous le voulons bien !» crièrent ensemble Mercandon et sa femme. « À genoux, alors !» dit Coconas. « Et que ton fils récite mot à mot la prière que je vais te dire !» Le père obéit le premier. « Je suis prêt, » dit l'enfant. Et il s'agenouilla à son tour. Coconas commença alors à lui dicter en latin les paroles du credo. Mais, soit hasard, soit calcul, le jeune Olivier s'était agenouillé près de l'endroit où avait volé son épée. À peine vit-il cette arme à la portée de sa main que, sans cesser de répéter les paroles de Coconas, il étendit le bras pour la saisir. Coconas aperçut le mouvement tout en faisant semblant de ne pas le voir, mais au moment où le jeune homme touchait du bout de ses doigts crispés la poignée de l'arme, il s'élança vers lui et le renversant. « Ah, traître !» dit-il, et il lui plongea sa dague dans la gorge. Le jeune homme jeta un cri, se releva convulsivement sur un genou et retomba mort. « Ah, bourreau !» hurla Mercandon, « tu nous égorges pour nous voler les 100 nobles à la rose que tu nous dois !» « Mais non, » dit Coconas, « c'est la preuve. » Et, disant ces mots, Coconas jeta aux pieds du vieillard la bourse qu'avant son départ son père lui avait remise pour acquitter sa dette envers son créancier. « Et la preuve, » continua-t-il, « c'est que voilà votre argent. » « Et toi, voici ta mort !» cria la mère de sa fenêtre. « Prenez garde, monsieur de Coconas, prenez garde !» dit la dame de l'hôtel de Guise. Mais avant que Coconas eût pu tourner la tête pour se rendre à ce dernier avis et pour se soustraire à la première menace, une masse pesante fendit l'air et, sifflant, s'abattit à plat sur le chapeau du piémontais, lui brisa son épée dans la main et le coucha sur le pavé, surpris, étourdi, assommé, sans qu'il eût pu entendre le double cri de joie et de détresse qui se répandit de droite et de gauche. Mercandon s'élança aussitôt, le poignard à la main, sur Coconas évanoui. Mais en ce moment, la porte de l'hôtel de Guise s'ouvrit et le vieillard, voyant luire les pertuisanes et les épées, s'enfuit. Tandis que celle qu'il avait appelée Madame la Duchesse, belle d'une beauté terrible à la lueur de l'incendie, éblouissante de pierreries et de diamants, se penchait, à moitié hors de la fenêtre, pour crier au nouveau venu, les bras tendus vers Coconas, « Là, là, en face de moi, un gentilhomme vêtu d'un pourpoint rouge, celui-là, oui, celui-là. »